pour ces imaginales, ces dixièmes imaginales. On n'a pas l'impression que le temps a tellement passé, mais pourtant si. Ça fait 10 ans maintenant qu'on se retrouve régulièrement pour parler de littérature d'imaginaire et de romans historiques. Et puis, c'est quand même le cœur de notre programmation de fantasy. Alors, autour de moi, quatre auteurs. Une auteure américaine qui vient nous voir pour la première fois, N.K. Jemisin, avec une série de 2 romans, Les 100 000 royaumes en particulier, qui est le premier de cette série. Je précise, pour situer les choses, il s'agit de romans indépendants dans le même univers. Voilà. Ensuite, Samantha Bailly. Samantha Bailly avec La langue du silence, le premier tome d'une, là aussi, de série. La langue du silence, c'est le prix imaginal des lycéens 2011, donc félicitations à Samantha Bailly. Et puis deux jeunes, décidément on a beaucoup de jeunes autrices cette année. Nadia Coste tout d'abord, Nadia avec Fédéline, Les rives du monde. En fait il s'agit d'une trilogie ou tétralogie ? Tétralogie, c'est ça. Donc là, j'ai des excuses, je n'ai lu que le premier puisqu'on attend le second à l'automne, je crois, c'est ça. Donc chez Grund et puis chez Michel Lafon, Marie Caillé, alors je ne connais pas, je découvre aujourd'hui. Marie a participé à un concours lancé par les éditions Michel Lafon. Je crois qu'ils ont reçu entre 700 et 800 manuscrits, ce qui n'est pas rien. Et visiblement, le jury qu'ils ont mis en place, on comprend l'intérêt de l'auteur. Si le livre n'est pas bon, ils ont investi beaucoup d'argent pour rien. Donc un jury s'est prononcé. C'est le livre de Marie Caillé que j'ai découvert, L'héritage des Darcères. Une vraie idée à partir de thèmes classiques, des personnages qui, pour une auteure je trouve aussi jeune, ont quand même de la personnalité, sont pas des archétypes simplistes, et ça fait plaisir pour un premier roman, c'est bon signe pour l'avenir. Voilà. Alors la question qu'on se posait ensemble, sur les héros, voilà, c'est ça. C'était sur les héros, et en fait, c'est la vraie question qu'on se pose tous dans la vie, comment devenir un héros? Et bien sûr, c'est le roman d'apprentissage, et en particulier le roman d'apprentissage qui vise des jeunes lecteurs. Mais pas seulement, puisque les livres de N.K. Jemisin visent plutôt des adultes, même s'ils sont tout à fait lisibles par des adolescents. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par Fédéline, Les rives du monde. Alors, je pose une question, Nadia, franchement, en découvrant votre roman. La question que je me suis posée, c'est, est-ce que vous avez lu Les fourmis de Bernard Werber ?
Non.
Alors, je vous explique pourquoi. Bien sûr, il ne s'agit absolument pas d'un décalcage, mais c'est la première fois que je retrouve une idée, c'est-à-dire de créer un univers et un monde tellement particulier, original, c'est le compliment du café littéraire. C'est vraiment une façon de présenter des personnages qui ne sont pas des êtres humains, qui sont plutôt, on pourrait dire, des sortes de petits, on va pas dire têtards, mais c'est un petit peu ce genre de petites créatures qui ressemblent plus à des êtres des marais, des mares, des étangs, puisqu'en effet, leurs adversaires sont les gordes-rives, c'est-à-dire des crapauds. Donc on voit, et j'ai pensé tout de suite, tiens, c'est très différent, ça n'a rien à voir. Mais je me suis dit, tiens, c'est pour la jeunesse un petit peu ce que Bernard Werber avait essayé de faire pour les adultes, d'où ma question. Est-ce que vous connaissiez
Alors, je connaissais, je ne l'avais pas lu. C'est vrai qu'on m'en a parlé après par la suite. On m'a parlé aussi de Toby Lonelest, qui est aussi sur des êtres de petite taille, ou en tout cas dans un univers un petit peu végétal ou proche de la nature, qui a des ambiances un petit peu auxquelles on peut penser. Maintenant, c'est vrai que moi, je voulais faire quelque chose d'original en partant vraiment d'un petit coin de mare. Avec des êtres différents, mais en même temps, même si on a un côté très animal, il nous parle de nous, quoi. C'est quand même, pour moi, c'est pas tellement des têtards, mais quand même, on se rapproche plus des fées, mais avec un côté très animal, plus proche des libellules, on va dire.
Marie Caillé, L'héritage des Darcères. Alors, on démarre comme dans un vrai conte de fées, même s'il est un peu tragique. On a un prologue avec une dynastie qui s'effondre, il y a une attaque, on n'en dira d'ailleurs pas beaucoup plus. Cette dynastie va s'effondrer, le roi va s'enfuir avec son trésor, et les usurpateurs vont s'installer dans ce royaume. Et on va découvrir dans les premières pages que les héritiers, le roi d'abord et ses héritiers, ont une mission, c'est de reconstruire un peu ce pouvoir et de reprendre en fait le pouvoir qui leur a échappé. Et puis on découvre au fur et à mesure que les enfants de ce roi vont se transmettre en quelque sorte. Alors on ne va pas en dire plus parce que sinon on déflorerait trop l'intrigue, mais il y a une transmission, il y a un message qui est donné, il y a une perspective qui est revenir au pouvoir, reprendre ce pouvoir qui leur a été arraché par la violence et par la guerre. Et normalement, évidemment, ce sont les fils du roi qui sont chargés. Et on va avoir une petite surprise. Je ne vais pas dire beaucoup plus, mais quand même, on peut le dire. On peut le dire. Bon, on va juste dire ça et on ne dira pas la suite, évidemment. La lignée, on va donc se transmettre. Visiblement, on ne sait pas au début, là, on ne sait pas exactement pourquoi ces personnages n'ont pas réussi encore à remplir cette mission, puisque ça fait déjà plusieurs générations qu'ils se transmettent, jusqu'au moment où ça va tomber sur une jeune femme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est une jeune femme de la classe privilégiée qui ignore totalement quelle est sa véritable origine ? Vous voyez, là, on est dans les thèmes classiques du roman d'apprentissage. Et puis, d'un seul coup, il vous tombe dessus, là, sur le coin de la figure, une mission dont elle ne veut même pas entendre parler. Comment on a l'idée d'un personnage de ce genre ? Et est-ce que, quelque part, vous êtes dit, qu'est-ce qui se passerait si je découvrais que j'avais une mission, que finalement on me l'a confiée. Est-ce que c'est un peu ça qui vous a donné l'envie d'écrire un roman ou peut-être l'idée que vous aviez quand vous étiez plus jeune?
En fait, moi, j'avais l'idée donc de faire un roman d'apprentissage à partir d'une héroïne qui part d'une classe très privilégiée, qui connaît rien de son monde. Donc en fait, moi, je voulais partir avec cette héroïne-là et lui faire découvrir son royaume en même temps qu'elle. Donc voilà. Après, oui, je me suis peut-être posé la question de comment un personnage pareil réagirait si on lui apprend qu'il a une quête. Et en fait, l'héroïne, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle refuse la quête. Donc, du coup, elle s'enfuit. Et elle va un peu retomber dedans malgré elle. Donc, je suis partie de cette idée-là. Et donc, voilà, on la suit à travers ce livre-là. Donc, c'est aussi un peu un roman d'initiation. Et on découvre son royaume en même temps qu'elle.
Samantha, la langue du silence, vous avez aussi un petit peu un point de départ qui est un, pour pas dire semblable, différent, mais vous avez aussi une jeune fille, apparemment sans histoire, même si on voit qu'elle est dans un internat, un peu coupée de sa famille, une famille de notables dans cette société, de gens importants, de gens de pouvoir, dont on devine très rapidement qu'ils ont, en tout cas le Gilles Manérian, le dirigeant, qu'il manque quelque peu de morale, quelque peu, c'est un euphémisme. On va découvrir cette société qui a l'air apparemment de bien fonctionner est beaucoup plus atroce qu'il n'y paraît. Et puis, ça commence par un crime. Un crime, une jeune fille qui va partir avec son amoureux, elle va être assassinée, et sa sœur va être en état de choc. Et à partir de là, là aussi, une quête pour comprendre d'abord, tout simplement, qui a assassiné sa sœur et pourquoi.
Oui, c'est ça, en fait. On a vraiment deux sœurs et toute l'intrigue se déploie par rapport à ce meurtre et les réactions face à la mort des deux sœurs. Donc on a Eileen qui est la plus jeune, qui va avoir une réaction immédiatement très viscérale de besoin de vengeance en fait, de vouloir trouver qui est le coupable. Et Nouni, en revanche, qui voilà, elle est restée dans le cocon familial et a eu une éducation beaucoup plus religieuse voilà, très comme ça dans un carcan bien précis, va voir ça en fait à plus grande échelle. Donc on a vraiment deux réactions très différentes par rapport à la mort, et c'est ça qui va constituer le début de l'intrigue.
Nkajemizine, on va peut-être procéder différemment, on va entrer directement dans votre roman. C'est au début, bien sûr, hein. On va quand même pas vous couper du plaisir de découvrir les livres. On est au début, alors pour vous résumer quand même un tout petit peu le début, l'intrigue, vous avez un personnage qui est convoqué dans la société, dans la ville un peu tentaculaire des dirigeants de ce monde, où on va lui annoncer qu'en quelque sorte, elle fait partie de la famille du dirigeant, ça elle le devinait, elle le savait, mais elle est une des héritières potentielles du roi, en gros, qui se meurt, plus ou moins, et évidemment, elle va découvrir qu'en fait, ça n'est pas tout à fait le cas. Et elle va surtout découvrir, très rapidement, que c'est une société extrêmement dangereuse, parce que quand on est une héritière potentielle, on est aussi une morte potentielle. Et donc, dans les couloirs de cette cité-monde, très rapidement, elle va faire de mauvaises rencontres. Ne cours pas. La voix de Si avait claqué comme un fouet. Je me figeais. Nahadot fit encore un pas dans ma direction et se retrouva si près de moi que j'aperçus le frisson fugace qui le traversa. Il fléchit les mains, marqua un temps d'arrêt, prit la parole. « Tu es si prévisible, Si. » Son timbre était profond, mais terriblement humain. Je m'attendais plutôt à un grognement animal. Si voûta les épaules, se comportant de nouveau comme un petit garçon boudeur. « Je ne pensais pas que tu nous rattraperais si vite. » Il pencha la tête, scrutant la mine de Nahadot, et articula lentement comme s'il s'adressait à un simple d'esprit. « Tu es là, n'est-ce pas ?»« J'arrive à la voir, » murmura le seigneur de la nuit. Il me dévisageait. À mon grand étonnement, Si opina, semblant comprendre ses divagations. « Je ne m'y attendais pas, moi non plus, » murmure-t-il. « Peut-être que tu te rappelles maintenant. Nous avons besoin d'elle. Est-ce que tu te souviens ?» Si avança vers lui et lui prit la main. Je n'avais pas vu cette main bouger. Je dévisageais Nahadot. Je surveillais la fureur meurtrière et aveugle sur son visage. Puis soudain, il empoigna la gorge de Si qui se retrouva au-dessus du sol, muselé, à donner des coups de pied dans le vide. Durant l'intervalle d'une respiration, je fus trop choqué pour réagir. Ensuite, la colère me prit. Une rage brûlante me consumait littéralement, la folie également, car je ne pourrais expliquer autrement ce que je fis alors. Je sortis mon couteau et criai « Laisse-le tranquille !» Un lapin qui menacerait un loup. Étonnamment, le seigneur de la nuit se contenta de me contempler. Il ne reposa pas Si, mais battit des paupières. La démence quitta alors ses yeux, cédant la place à de la surprise, voire de l'intérêt. Le regard d'un homme qui viendrait de découvrir un trésor sous un tas d'ordures. Mais il continuait d'étrangler Si, néanmoins. « Lâche-le !» Je m'accroupis, changeant de position comme ma grand-mère d'arène m'avait appris à le faire. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais sous l'effet de ma folle, débordante, vertueuse fureur. Si elle n'était qu'un enfant, arrête ça tout de suite. Nahadot sourit. Je bondis. Le couteau le frappa en pleine poitrine et s'enfonça profondément avant de heurter un os, m'obligeant à lâcher la garde. Je me retrouvai contre son torse. Tandis que j'essayais de le repousser, je m'étonnais de constater qu'il était solide et chaud. Un être de chair et de sang, malgré la puissance qui l'entourait. Je m'émerveillais davantage encore lorsque sa main libre serra mon poignet comme un étau. Une telle dextérité en dépit du couteau planté dans son cœur. Il aurait pu me briser les os. Il ne fit que m'immobiliser. Son sang recouvrit mes doigts, plus brûlant que ma colère. Je levai les yeux et croisai un regard cordial, doux et désespéré. Humain. Ça fait si longtemps que j'attends, souffla le dieu. Et il m'embrassa. Ensuite, il s'effondra sur le sol. Rencontre choc, ces dieux qui sont chargés en fait de la sécurité de cette société sont des êtres extrêmement dangereux tout en étant contrôlés par cette société. Et la rencontre du personnage principal, de l'héroïne et de ce dieu est quand même, on vient d'en entendre la lecture, assez dynamique, on va dire, assez surprenante. D'où vous est venue cette idée d'un dieu tout-puissant, mais qui, quelque part, va être surpris par une jeune adolescente et son comportement.
Well, first I have to say it sounds so much better in French. It's really pretty. Well, I would say that the idea came primarily from just my interest in imperialism and colonialism and trying to explore what happens when absolute power is actually absolute. We read many fantasy stories in which there are powerful kings and powerful queens, but they don't have the ability to destroy the world. And so I wanted to give them true absolute power, potentially enough power to... Essentially, the gods in this world are walking nuclear bombs. So they have that kind of power at their disposal, and I would like to see... I wanted to see what it was like to have such powerful beings enslaved.
Okay. Thank you. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que c'est vachement mieux en français quand même à entendre. Donc l'idée m'est tout d'abord venue par mon intérêt dans l'impérialisme et le colonialisme. Et je voulais voir ce que ça donnerait quelqu'un qui avait vraiment le pouvoir absolu. Parce que souvent, dans les romans, on lit des histoires où, les rois et les reines ont beaucoup de pouvoir, mais ils n'ont pas le pouvoir de détruire le monde en un clin d'œil. Alors moi, ce que je voulais, c'était des dieux qui étaient en fait des espèces de bombes nucléaires ambulantes et qui pouvaient exploser à tout moment. Et leur pouvoir était tellement fort qu'ils peuvent tout faire et en même temps, ce sont des esclaves.
Deuxième chose que je voulais vous demander, Kajemizine, c'est le personnage que vous avez choisi. Parce que cette adolescente plongée dans un monde de complots, de violence, de brutalité, où en quelque sorte son destin est programmé, elle ne va pas faire de vieux os, comme on pourrait dire familièrement. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi justement une jeune femme comme héroïne? Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi un personnage qui va se révéler finalement, peut-être le principe justement de la quête initiatique, va se révéler plus habile qu'il n'y paraît? Malgré la colère dont elle fait preuve, comme on vient de le voir.
Well, as you said, Stephanie, there is a possibility that she will not survive this. And I meant to have someone brought into this world who would be somewhat naive, somewhat young and inexperienced and not ready to deal with the world that she's encountered, but for the most part I wanted someone who is intelligent enough to get through it even if she doesn't have the resources. So she is powerless in many ways, but she works with the power that she has. And I really was just thinking age doesn't matter, and that's one of many disadvantages that she has. She's doesn't look like the rest of the people there. She's short, they're all tall. She's dark-skinned, they're all pale. And so she's also poor. They're all incredibly wealthy. So she has many disadvantages, and age is just one of those. But I thought that it would emphasize her vulnerability relative to everyone else.
Donc, vous avez dit qu'elle risquait de ne pas survivre. Effectivement, moi, ce que je voulais, c'était un personnage qui soit venu au monde et qui soit assez naïve, assez jeune et pas forcément prête à affronter ce qui l'attend. Mais je voulais surtout qu'elle soit assez intelligente pour se débrouiller avec le peu de ressources qu'elle avait et pour s'en sortir. Alors l'âge n'a pas vraiment d'importance, c'est juste un des désavantages parmi tant d'autres. Elle est petite, tout le monde autour d'elle est grand. Elle a la peau sombre et tout le monde est pâle. Elle est pauvre alors que tout le monde est riche autour d'elle. Et donc c'était juste une façon de la mettre en valeur et de montrer que l'âge n'est qu'un problème parmi tant d'autres.
Autre entrée dans un roman, celui de Marie Caillé, donc un livre justement. Le livre qui captait à ce point leur attention n'avait pourtant rien d'exceptionnel. Il était un peu vieux, un peu jauni, la couverture ornée d'une simple bande d'or. Elle l'avait retrouvé le matin même et s'était aussitôt ruée dessus. Personne, quelle que fût sa classe et son éducation, ne pouvait résister à un livre de contes. Elles avaient parcouru le livre sans en manquer aucun. Il les ramenait droit vers l'enfance, dont la plupart d'entre elles n'étaient pas vraiment sorties. Et elles éprouvaient un délice de tous les instants à renouer avec la fée ou la marâtre, et surtout avec le prince charmant, qu'elles rêvaient de rencontrer chez un prétendant prochain. C'était toujours la même chose et toujours nouveau. Un héros, un adversaire, une princesse à marier. Les trames ne changeaient guère, mais le plaisir restait identique. À frémir et espérer pour l'issue d'une quête, qui immanquablement finissait sur la même phrase, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il ne précise jamais si le prince et la princesse ont vécu heureux aussi après l'arrivée des enfants, dit Férine, la plus petite du groupe, déclenchant une tempête de gloussements. Elfia, la plus âgée, fut la seule à ne pas rire. Elle allait se marier quelques mois plus tard. Le livre s'achevait là, avec une fin semblable à toutes les autres, mais derrière laquelle l'enchantement d'un conte suivant ne se renouvelait plus. Toutes les mains qui s'accrochaient au livre pour l'orienter du bon côté ou pour empêcher qu'on tourne la page se retirèrent à regret et les filles se remirent à genoux. « Avez-vous remarqué, demanda une brunette, que l'on parle toujours des aventures d'un pauvre air qui devient prince, jamais d'un prince lui-même ?»« Bien sûr que si, dit Elfia, le héros du troisième conte en était un. Je veux dire un prince qui ne soit jamais cadet, jamais ruiné, un prince, un vrai. Pourquoi cela n'apparaît-il qu'à la fin ?»« Parce que les riches n'ont rien à prouver. » Alors, Marie Darcier, à la différence des riches, votre héroïne a des choses à prouver ?
Justement, en fait, donc mon héroïne Midria va un peu suivre le schéma inverse donc des contes habituels, vu qu'en effet, elle est née riche. Elle est née adoptée en fait par les Siartes, qui sont des nobles très importants de son royaume. Elle est née riche en découvrant la quête qui l'attend. Elle va devoir s'enfuir. Et en effet, elle va un peu vivre le schéma inverse, tomber dans la misère. Et en effet, là, elle va avoir ses preuves à prouver, donc loin de toutes les règles qu'elle connaît.
Peut-être Nadia ? Autre extrait, autre univers et autre façon d'aborder une quête initiatique. Sais-tu que le destin de chacun est déterminé dès sa bulle ? J'acquiesçais. Sais-tu comment on peut le voir ? Par la marque derrière l'oreille. Elle hocha la tête et souleva ses cheveux pour me montrer la peau derrière son oreille gauche. Une pointe pleine, couchée, avec deux lames finissant en crochet, formant un relief. Elle reprit après s'être assurée que j'avais bien vu. Cela est la marque des transmetteurs. « Tu es une transmettrice, comme moi !» m'exclamai-je avec joie. Ma mère me réduisit au silence d'un geste. Je fronçai les sourcils. « Je suis une transmettrice, pas toi !» Mais Vérolon a dit « Cherche ta marque, Cail !» En bougonnant, je fis courir mes doigts derrière mon oreille gauche. Aucun dessin sur ma peau. Mes doigts tremblèrent, je ne comprenais pas. Ils se sont peut-être trompés d'oreille, pensais-je dans un sursaut d'espoir. J'examinai l'autre côté. Rien non plus. Mon souffle se fit court. Une goutte de sueur roula entre mes excroissants. Je ne suis rien, dis-je avec angoisse. Ma mère se mordait les lèvres de nervosité. Bien sûr que si, mon chéri. Je me sentais normal, pourtant, tous les fédélines naissaient avec une marque. C'était comme ça depuis l'arrivée des pères. Cela faisait partie des choses que je savais, de la base de notre société. On ne pouvait pas naître sans marque. Le monde s'écroula. J'étais né dans une société harmonieuse, au sein d'une famille heureuse, avec une mère aimante, mais j'étais différent. Anormal. Je n'ai pas de place, murmurai-je choqué. Je n'ai pas de destin. Ne dis pas ça, Cail. Alors il a un destin alors qu'il n'a pas de marque ? Parce que dans cette société, on a une marque pour faire partie d'une caste et pour voir un travail attribué.
Et en fait, c'était un petit peu la base de mon idée pour ce roman. C'est ce qu'on voit souvent en fantasy, c'est un héros qui a un destin formidable au milieu de tout le monde qui n'en a pas. Et moi, je voulais faire un petit peu l'inverse. Donc c'est une société où tout le monde naît avec un destin. Donc tout le monde accepte son destin, accepte tout ce qui lui arrive tout le temps. C'est une espèce de dictature du bonheur. En fait, voilà, tout le monde doit être heureux, même si ses meilleurs amis se font manger par des migrateurs qui passent. C'est le destin, on l'accepte, on continue d'avancer. Et ça m'intéressait de voir la position d'un personnage principal qui va devenir le héros de cette histoire, qui est donc lui le seul qui naît sans marque et qui va se dire, voilà, j'ai pas de marque, donc j'ai pas de destin. À partir de là, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, et du coup il va chercher sa place dans cette société où il est différent, où on ne l'accepterait pas si on la prenait, donc il va devoir dissimuler cette différence et devoir s'intégrer dans cette société-là très hiérarchisée.
Et oui, quand on dissimule sa différence, c'est compliqué. Une fois qu'on la dissimule plus, c'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas Nadia ?
Alors le problème, c'est que bien sûr, ça va être découvert. Donc c'est pas...
C'est toujours découvert.
Voilà. Et alors, je vais peut-être dévoiler un petit peu des choses de la suite qui ne sont pas dans ce premier tome et qui sont aussi en thème avec la conférence.
Pas trop, juste pour nous donner envie.
Juste un petit peu. Mais disons que... il va être amené dans la suite à être considéré un petit peu comme un héros. Voilà, en se disant, il est différent... Il a accompli un destin alors qu'il n'était pas marqué pour ça au départ. Mais c'est un personnage qui, par sa différence, se pose des questions. Alors que c'est un peuple qui, normalement, accepte, donc ne se pose pas de questions. Et le fait de se poser des questions comme ça, il ne va pas accepter d'être considéré comme un héros parce que lui, il va considérer qu'il n'a rien fait pour ça. Et du coup, va remettre en cause ce statut de héros qu'on va lui attribuer et essayer de creuser dans sa société pour découvrir un petit peu ce qui ne fonctionne pas et pointer du doigt ça pour montrer que ouais, ce n'est pas parce que tout le monde est heureux que c'est forcément très sain parce que ça ne l'est pas pour des bonnes raisons.
Un petit extrait de La langue du silence de Samantha Bailly. Les ténèbres engloutissaient la cité Manérian. La lumière des étoiles se mêlait à celle des habitations. Nouni avait peu d'occasion de se promener dans la cité de nuit. Elle avait été initiée à une hygiène de vie très stricte. Bien entendu, elle avait souvent fait des entorses à cette résolution, entre autres pour regarder sa mère danser. Et il y avait bien eu une fois où, lors de son premier béguin, elle s'était enfuie chez elle la nuit pour rejoindre un jeune homme répondant au nom d'Eptiel. Cette aventure sentimentale avait alors très mal tourné. Les parents d'Eptiel avaient surpris les deux jeunes amoureux s'embrasser. Ils avaient tout de suite prévenu Gilles Manérian. Nouni avait été rudement punie. Son père ne tolérait pas le fait qu'elle puisse avoir une liaison avant l'obtention de son étoile de base. Il lui avait interdit de reprendre contact avec lui. Au souvenir de la colère de Gide, du poing cognant sur la table, Nouni se sentit envahie de détresse. Eptiel avait été banni de la cité Manérian sur ordre de Gide. Il voulait que cette affaire soit réglée. Les parents du jeune homme, des oraisonniers certes peu talentueux mais d'une grande bonté, avaient décidé de suivre leur fils. Elle s'assit dans l'herbe dominant la ville du haut de la colline du domaine. Un vent léger s'était levé, berçant sa méditation. Elle avait déjà songé à abandonner l'oraison. Cet art la passionnait, même si parfois elle se demandait si elle n'aimait pas plus la ville que son métier. Elle accomplirait son devoir envers sa corporation, mais où aller était une question qui la tourmentait sans cesse. Elle descendit vers la cité et s'arrêta devant l'un des parcs. Elle y avait passé une bonne partie de son enfance à y jouer avec ses deux sœurs et ne s'y rendait plus guère depuis leur départ. Des lanternes accrochées aux branches des arbres éclairaient le grand jardin fleuri et les bancs de bois vides. Elle emprunta une allée bordée de fleurs odorantes. Nouni s'installa sur l'un des bancs, les genoux ramenés contre sa poitrine, et observa la voûte céleste. La plus petite des trois lunes, l'amant, trônait dans le ciel. De temps à autre, une étoile laissait un sillage de vive clarté. « J'en vois les morts là-bas, » songea-t-elle avec émerveillement, « et ils peuvent ainsi se réincarner et passer à un niveau de conscience supérieur. C'est un don, je ne peux pas abandonner. » Alors, cette jeune fille, elle a un don, croit-elle, en tout cas, oraisonnier, l'oraison, hein, elle est chargée dans cette société, c'est un rôle important d'aider, en fait, les esprits des morts à passer dans une autre dimension. Ça, du moins, c'est ce qu'on raconte, ça, du moins, c'est ce qu'on prétend. Mais derrière ça, il y a des choses beaucoup moins religieuses et beaucoup moins reluisantes.
Oui, parce qu'on sait, en fait, que voilà, la mission des oraisonniers, c'est une mission qui est double, on va dire, qui est celle d'une sorte de passation vers une autre vie pour l'âme des défunts, et en même temps aussi un accompagnement aux personnes qui viennent d'être touchées par une perte. Donc c'est une société qui est vraiment régie autour de la mort, qui accepte cette mort et qui croit profondément en un processus de réincarnation. Et en fait, donc c'est un rôle très très important, et Nouni est chargée de continuer en fait la mission familiale, qui consiste à être une excellente oraisonnière et qui plus est l'une des meilleures forcément, puisque son père est responsable de la corporation. Mais on sait aussi que faire l'oraison d'un de ses proches, ça demande aussi une certaine cotisation, on va dire, et qu'il y a tout un aspect pécunier qui tourne autour de ça, puisque la substance qui est extraite en fait des morts lors de la cérémonie d'oraison est revendue au gouvernement. Et donc c'est autour de ce mystère pourquoi en fait le gouvernement va utiliser finalement l'âme des défunts que s'articule toute l'intrigue.
Un autre univers, celui de N.K. Jemisin. Encore un petit extrait. La cour principale est la première chose que le visiteur découvre en arrivant à Ciel. Ce lieu a de quoi impressionner avec sa porte verticale, son entrée, un tunnel caverneux d'arches concentriques au-dessus duquel s'élève le corps du palais lui-même, son jardin des 100 000 et sa jetée où aucun bateau n'est amarré, puisqu'elle surplombe un précipice d'environ 800 mètres de haut. Elle est dotée d'une balustrade élégante et fine qui arrive à la taille. Elle n'arrêterait pas une personne qui tenterait de se suicider, mais j'imagine qu'elle doit rassurer toutes les autres. De Carta se tenait debout au pied de la jetée en compagnie de Virène et de plusieurs individus. Le groupe se trouvait relativement loin, si bien que personne ne m'avait vu. J'aurais fait demi-tour et serais retourné à l'intérieur du palais si je n'avais pas reconnu l'une des silhouettes, Sakarne, la déesse guerrière. Sa vue m'arrêta. Les autres personnes présentes étaient les courtisans de mon grand-père. Je me rappelais vaguement avoir croisé certains d'entre eux le jour de mon arrivée. Un homme, pas aussi bien habillé que les membres de ce groupe, fit quelques pas sur la jetée, comme pour contempler le panorama. Il tremblait de tous ses membres. Je parvins à le voir de l'endroit où je me trouvais. De Carta s'adressa à Sakarne, puis la déesse leva la main et fit apparaître une lance en argent étincelant. Elle la pointa et s'avança de 3 pas. Le bout de la pique se souleva, ferme comme le roc malgré le vent, à quelques centimètres du dos de l'homme seulement. Ce dernier marcha vers elle, puis regarda derrière lui. Ses cheveux balayés par la brise formaient un nuage vapeureux autour de sa tête. Il semblait âne ou d'une race apparentée. Je reconnus ses manières, cependant, ses yeux fous et provocateurs, un hérétique qui reniait tant pas le lumineux. S'il y avait eu des armées entières de gens comme lui autrefois, il n'était plus que quelques-uns à présent, se cachant dans des poches de résistance isolées au sein desquelles ils continuaient à vénérer leur dieu déchu en secret. Celui-ci avait dû se montrer négligent. « Vous ne pourrez pas les maintenir enchaînés éternellement !» articula cet individu. Le vent porta ses paroles jusqu'à moi et les balaya plus loin, me chatouillant les oreilles. La magie protectrice qui produisait un air chaud et calme à l'intérieur de ciel n'opérait visiblement pas sur l'acheté. Même le père aux cieux n'est pas infaillible. De Carta ne répondit pas, mais il se pencha sur Zacharne pour lui murmurer quelque chose. L'hérétique se raidit. « Non, ne faites pas ça !» Il se tourna, comme s'il allait contourner la déesse et la pique proéminente, les yeux rivés sur De Carta. Zacharne n'eut qu'à bouger légèrement le bout de sa lance, parce que l'homme s'empala lui-même dessus. Je criai et me couvris aussitôt la bouche avec la main. L'entrée du palais amplifia mon hurlement. De Carta et Virène se retournèrent au même moment pour regarder dans ma direction, mais celui que le pauvre bougre poussa, alors éclipsa le mien. J'eus la sensation que la pique de Zacharne traversait mon propre corps. Le dos voûté au-dessus de la lance dont il empoignait la hampe, l'hérétique tremblait davantage. Je compris que d'autres forces le traversaient lorsqu'un rougeoiement apparut dans sa poitrine autour de la pointe de métal. De la fumée s'éleva de ses manches, de son col, de sa bouche et de son nez. La vision de ses yeux fut la pire parce qu'elle me confirma que l'homme était toujours conscient. Il savait ce qui était en train de lui arriver, ce qui ajoutait à ses souffrances. Je ne pus en supporter davantage. Je m'enfuis, je courus vers le palais, me cacher dans un coin, mais je l'entendis crier, crier, crier encore, tandis qu'il brûlait de l'intérieur, et encore alors que je me disais que ses hurlements me rendraient folle et que je ne percevrais plus que jusqu'à la fin de mes jours. Je remerciais tous les dieux, même Naadoth, lorsque le silence retomba enfin. C'était une société violente, les 100 000 royaumes.
It's a very violent society, but Yaena, the protagonist herself, comes from an extremely violent society. So what is meant to be shown with this scene is a contrast. She's coming from a society where that is considered barbaric. They do some very barbaric things, but she's come to what is supposedly a civilized society where they do equally barbaric things, and that's meant to be shown in this scene.
Donc effectivement, elle vit dans un monde très violent, mais donc Yen, le personnage principal, vient également d'une société qui est considérée comme très violente. Et ici, ce que je voulais montrer, c'était le contraste. Elle vient d'une société qui est considérée comme barbare, donc effectivement, la violence règne. Mais là, elle vient dans un monde qui est censé être civilisé, et finalement, il y a des actes tout aussi barbares qui sont perpétrés.
Chez vous, Nadia Coste, évidemment, on passe de roman pour adulte à roman pour jeune, donc la violence s'y exprime quand même de façon plus nuancée. Mais c'est aussi une société qui, quelque part, est brutale avec ses membres quand ils ne sont pas tout à fait dans la norme.
Oui, alors c'est un peuple qui est censé être pacifiste, qui vit, sont très peu à avoir des armes, il n'y a vraiment que quelques personnes qui en ont, et vraiment pour défendre les limites, pour protéger les petits à naître, mais il y a vraiment très peu d'armes, mais... en même temps, ils ont une philosophie de l'acceptation, mais si, il leur faut du temps pour accepter les choses un petit peu différentes. Et quand ils découvrent la différence énorme de Kaïl, qui pour eux, c'est complètement aberrant. C'est comme si on avait un homme de la préhistoire au milieu de nous, sauf que ça ne se voit pas au premier regard. Et le premier réflexe, c'est de ne pas accepter. Et Kaïl ne sait pas ce que les autres vont faire, ce que les pères fondateurs, dirigeants de sa société vont faire, ce que son village va faire. Il a très peur de ça. Il est à peu près persuadé qu'il aurait dû mourir, puisqu'il n'a pas de destin, donc il aurait dû mourir d'entrée en se noyant avant d'atteindre son rivage, puisqu'ils doivent traverser la mare avant au moment de leur naissance. Et du coup, avant de savoir si on va lui faire du mal, si on va le tuer, ce qu'on va lui faire, il décide de partir avant les conséquences. Et du coup, il sera peut-être surpris des conséquences, parce que justement, peut-être qu'elles seraient moins dramatiques que toute la violence qu'il imagine face à sa différence.
Puis c'est ce qui va l'amener lui-même à être curieux des autres, y compris en dehors de sa propre société. ceux qui sont les ennemis héréditaires que peut-être finalement ça n'est pas si simple.
Oui, parce que du coup, de l'autre côté de la mare, le peuple ennemi, c'est un peuple donc, de batraciens armés qui est relativement barbare et qui, eux, ne vivent que par la violence, par des combats. Ils se construisent par la force physique les uns contre les autres. Et Kyle va découvrir un de ces barbares-là qui est un petit peu moins barbare que les autres, qui a envie de comprendre, qui a envie de transmettre l'histoire de sa culture aussi, qui a envie d'évoluer un peu plus. Et ils vont se retrouver chacun dans leurs différences et créer une amitié très forte où justement il va y avoir beaucoup de choses sur la tolérance, l'acceptation de la culture de l'autre et où finalement, en se parlant, en communiquant, on se comprend et on n'est peut-être pas obligé de s'affronter toujours. Quoi.
Alors finalement, on va arriver bientôt à la fin de notre café littéraire. Le temps passe vite quand on est bien ensemble, finalement. La question donc que je vais vous poser à chacune, mais d'abord à Nadia, puis c'est une réponse qu'attendent entre autres pas mal de nos jeunes lecteurs. Comment devenir un héros ?
Alors moi, le problème, c'est plutôt veut-on devenir un héros ? Parce que dans mon cas, ça va être un petit peu un anti-héros. Un petit peu l'inverse parce que voilà le héros pour moi c'est celui qui va attirer l'attention sur lui et accomplir des choses formidables mais finalement au quotidien nous on est tous un petit peu des héros dans ce qu'on accomplit de quotidien et c'est ça qui m'intéresse c'est les héros du quotidien aussi sur les petites choses.
Marie Caillé sur l'héritage des Darcer. Il y a un moment donné aussi, lorsque le personnage, qui est quand même le personnage principal du roman, va être chargé d'une mission dont elle ne veut rien avoir à faire, quand on la découvre, c'est une privilégiée, elle est insupportable. Non, franchement, elle est insupportable. Elle pense en gros qu'à profiter pour épouser quelqu'un d'important pour devenir la plus importante de sa société. Elle pense qu'à ses robes, elle ne sait même pas que la pauvreté existe. Enfin, franchement, on n'aurait pas envie de passer un dîner avec elle. Et puis finalement, comment devenir une héroïne quand on part avec une aussi lourde hérédité de privilégiés ?
Ah bah c'est toute la question. Bah moi, c'est pareil. J'ai fait comme Nadia, je suis partie d'une anti-héroïne. Et bah, comment devenir un héros pour elle, bah, ça ne va pas être évident. Donc, comment dire bah, je ne sais pas, moi, j'ai pris un personnage donc, qui était antipathique et en fait, j'ai décidé de le suivre et de le voir évoluer. Donc, ça va être tout d'abord dans le premier tome et puis sur l'ensemble de la trilogie. Donc, voilà, donc, c'est en suivant son évolution, la façon dont elle va affronter la nouveauté et l'adversité.
Voilà. Peut-être un point commun. On devient un héros, en tout cas un personnage qui
et
se construit.
En tout cas,
quand on...
sur le roman d'apprentissage, voilà. L'aventure, c'est vraiment les choses qu'on traverse, les gens qu'on rencontre, les situations dans lesquelles on est confronté, les choix qu'on fait à des moments de la vie qui fait que le personnage évolue et devient un héros ou pas.
Et gagne en partie, en tout cas, notre sympathie. Elle ne lui était pas acquise nécessairement au départ. Samantha Bailly, pour vous, c'est un peu la même perspective ?
Je pense que oui, il y a toujours cette idée de sortir d'un conditionnement qui est, je pense, dans le roman initiatique, un thème assez courant. Là, je ne voulais pas forcément des personnages qui n'étaient pas sympathiques, mais en tout cas, Nouni, par exemple, c'est une personne assez naïve, on va dire, au début, et elle peut être aussi énervante dans son genre parce que finalement, voilà, même si on sent que c'est quelqu'un qui a un bon fond, on n'a pas forcément envie de la suivre parce qu'on se dit, bon, bah. Voilà, quel courage elle va avoir pour affronter justement l'adversité. Et on se rend compte, bah, c'est toujours pareil, qu'un héros, finalement, c'est celui qui se découvre des ressources insoupçonnées, qui voilà, va essayer d'aller au-devant de ses a priori, de faire exploser ses carcans, en fait, en quelque sorte. Donc je pense que là-dessus, on se rejoint toutes, j'imagine, sur le traitement héroïque.
Avec des livres quand même très différents, c'est ça aussi qui fait le plaisir de découvrir des romans. Pour conclure... N.K. Jemisin, comment devenir un héros, plus exactement, comment devenir une héroïne quand, a priori, on est plongé dans un monde aussi brutal, aussi violent, dont on ne connaît pas les règles?
I will agree here with Samantha. I think a hero is a person who tries to be herself regardless of whatever pressures are imposed against her. And in my story, the character is someone who is put into a situation where she's meant to be powerless, and yet she tries to fight through despite that. She does get unhappy. She does break down. She has moments of weakness, but then she pulls herself back together and then continues on. And I think that is true heroism. I think everyone has that strength and potential in them. Whether they actually push through the fear and continue on is what makes the heroism.
Oui, donc je suis d'accord avec la vision de Samantha. Mon héroïne essaye d'être elle-même malgré des pressions extérieures. Et moi, dans cette situation particulière, elle se retrouve dans une situation d'impuissance et pourtant elle va se battre. Alors certes, il y a des moments où elle sera malheureuse ou elle sera faible, mais après elle se reprend et elle continue. Et c'est ça être un vrai héros. Je pense qu'on a tout ça en nous. Des ressources insoupçonnées, mais le fait de devenir un héros ou pas, c'est si on traverse ces épreuves ou pas.
Ça nous sera une belle conclusion. Donc je vous incite à découvrir les livres de nos auteurs. Samantha Bailly, La langue du silence. Je vous rappelle que c'est le prix imaginal des lycéens qui va être remis d'ailleurs dans une demi-heure de Samantha Bailly, donc aux éditions Mille Saisons. Fédéline, Les rives du monde, de Nadia Coste. Là aussi, un roman tout à fait sympathique et intéressant et original. L'héritage des Darcères, Marie Caillé. On réussit à gagner un concours et on a un contrat pour 3 romans, une trilogie. Et si l'éditeur se lance, il a des raisons. Et en effet, en lisant le roman, on le découvre que c'est un roman qu'une fois qu'on a commencé, même si l'héroïne au début est énervante, elle va évoluer. On est tout à fait passionné. Et puis, Les 100 000 royaumes, littérature adulte. Mais bon, encore une fois, les lycéens peuvent les lire sans problème. De la fantaisie d'action, de la fantaisie intelligente, mais aussi une fantaisie extrêmement originale. Lorsque j'ai lu les interviews de N.K. Jemisin, j'ai tout de suite été intéressé par ce qu'elle racontait, son originalité, ses idées qui décapaient un peu dans parfois un ronron qu'on a dans la littérature. Et puis aussi un roman puissant, un roman fort, avec des héros et des héroïnes surtout. Et puis, pour conclure sur ce livre, parce que à côté de nos auteurs jeunesse, je voulais qu'il y ait un auteur adulte parce qu'on a aussi de l'apprentissage et des héros et des héroïnes dans les livres pour adultes. Eh bien, de la fantaisie où on aborde des idées qui parfois ne sont pas les idées traditionnelles de la fantaisie américaine. Peut-être parce que quand on est issu de minorité soi-même, eh bien, on regarde aussi les minorités, pas seulement les sociétés traditionnelles et ceux qui les dirigent depuis toujours. En tout cas, 4 romancières, 4 livres passionnants. Et puis beaucoup de bonheur pour vous de les découvrir. Merci.